journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Pendant 30 minutes, l'antenne d'Africa numéro 1 vous appartient. Aujourd'hui, la tentation du troisième mandat en Mauritanie. C'est un sujet qui fait l'objet fréquent d'articles dans la presse mauritanienne depuis 2016. Il y a un an, cette option s'est faite un peu plus pressante avec l'adoption par référendum d'une modification de la Constitution visant à modifier le drapeau et à supprimer le Sénat, au point que le chef de l'État s'est engagé à ne pas briguer un troisième mandat il y a quelques mois lors d'une interview. Mais une petite phrase relance le débat. En campagne pour les élections législatives, le président Mohamed Ould Abdelaziz a déclaré ceci: « Ceux qui parlent souvent de troisième mandat doivent d'abord gagner les législatives et permettre à l'UPR, le parti présidentiel, d'obtenir une majorité écrasante au Parlement. Cette majorité est indispensable pour continuer la réalisation de nos projets. » Alors, que pensez-vous de cette phrase? Mohamed Ould Abdelaziz quittera-t-il le pouvoir en avril 2019? L'alternance reste-t-elle un défi pour la Mauritanie? Nous en parlerons avec un invité, Abdou Biran Ouane. Il est fondateur du collectif Ne touche pas à ma nationalité et auteur surtout d'un livre qui vient de paraître, Les Noirs de Mauritanie, entre résistance et résignation. C'est paru aux éditions continentales. Pour participer, nous faire part de vos commentaires, de vos avis, de vos questions, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 si vous appelez depuis partout ailleurs dans le monde. Mais avant de parler du sujet du jour, je vous propose d'écouter quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour amis de JDA et bonjour Madame Stéphane Hartmann, Congolais et Congolaises de la RDC, soyons prudents. Madame Stéphane Hartmann, s'il te plaît, je vais répondre à Monsieur Amil. C'est Emile, le Congo d'abord pour commencer, ce n'est pas un royaume. Alors, Kabila, si il va plus se présenter parce qu'il n'a pas réussi de changer la constitution en 2015, ça te laisse si tu es vraiment Congolais ou tu es Congolais béninois. Donc, la RDC, ce n'est pas un royaume. Alors, concernant la CENI, Centre national de compétences de Nanga ou la Cour de cour constitutionnelle de M. Kengo Adondo, ont eu le courage d'écarter la candidature de Mbemba et de M. Mozito ou M. Badi Banga qui fut Premier ministre pendant 5 mois. Alors, si Badi Banga a double nationalité, M. Kengo qui est là, qui est du Rwanda, qui a la nationalité rwandaise ou polonaise, voire congolaise. Et Kamere qui est là, Kamere, il est né où? Il a quoi comme nationalité? Donc, le Congo appartient aux Congolais. Plus rien ne sera comme avant et tout va changer, tout doit changer. Merci, Simfo Moumat. Ciao.
Bonjour, Madame Stéphanie. Je vous appelle à lancer à tous les Maliens. Je vous remercie depuis du Mali, en France et en Amérique. Tous les Maliens qui sont sortis, ils ont montré qu'ils sont du patriotisme. Ils ont répondu, Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, de dire non, ce n'est pas l'extérieur qui vont voter à la place des Maliens. Celui qui sont sortis en France, on fait partie de ce groupe de Bastille jusqu'à République, à New York. Donc comment ça fait que M. Ibeka peut être élu avec zéro voix? Je dis à M. Ibeka, ce n'est pas le rangement de l'extérieur qui peut ranger votre pouvoir. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Oui, bonjour Madame Stéphanie Hartmann. Bonjour chers auditrices et auditeurs. Bonjour l'Afrique. À la grande surprise de tout le monde, le ministre français de l'écologie, ministre d'État, deuxième en ordre hiérarchique du gouvernement d'Édouard Philippe après Gérard Collomb, a démissionné et ce, après 1 an, 3 mois et 11 jours. La raison principale évoquée, je cite, « Je ne peux plus continuer à me mentir, je ne me sens pas assez soutenu sur certains dossiers. » 3 points de suspension. Alors, le message que j'ai à faire passer est celui-ci. Pourquoi aucun de nos ministres africains ou chef d'État ne démissionne-t-il jamais volontairement? Pourquoi s'accroche-t-on à tout prix au pouvoir en Afrique, quitte à ce qu'il y ait des bains de sang, des milliers de pertes de vies humaines? Vous vous rendez compte des avantages et possibilités que Nicolas Hulot a? Et pourtant, il décide de son propre chef.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez intervenir désormais en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 00 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, nous attendons vos réactions à l'actualité politique en Mauritanie, en campagne pour les élections législatives et locales qui se tiendront le 1er septembre prochain. Le président mauritanien a de nouveau évoqué un troisième mandat. Alors qu'en pensez-vous? Va-t-on vers une nouvelle modification de la Constitution en Mauritanie? Nous en parlons tout de suite avec notre invité Abdou Biranouane. Abdou Biranouane, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur du collectif Ne touche pas à ma nationalité, auteur de Les Noirs de Mauritanie entre résistance et résignation. C'est paru aux éditions Continental. Alors, première question, Mohamed Ould Abdelaziz a donc déclaré ceci, je cite hein, la phrase, « Ceux qui parlent souvent de troisième mandat doivent d'abord gagner les législatives et permettre à l'UPR d'obtenir une majorité écrasante. Cette majorité est indispensable pour continuer la réalisation de nos projets. » Comment interprétez-vous ces propos du chef de l'État mauritanien Abdou Biranouane?
Oui, ces propos ne font que confirmer les soupçons que nous avions dès le début. Il faut savoir que ça n'a pas commencé qu'avec la sortie du président Oul Abdelaziz le 24 août à Rosso. Mmh. Il faut rappeler qu'il y a 2 ans, le ministre de la Justice et celui aussi des Finances avaient proposé au Parlement de voir la possibilité de permettre au président de briguer un troisième mandat. Mmh. Après, il y a eu le premier ministre, Yahya Oul Ademin, et le patron de l'UPR, Oul Maham, qui ont également fait la même suggestion. Au mois de mai 2018, c'était aux oulémas, donc ces guides religieux, qui se sont mobilisés pour demander à ce qu'on permette aussi au président de briguer un troisième mandat. On voyait tout ça venir. Donc la sortie qui nous éclaire le plus, c'était celle du 24 août à Rosso, où le président s'est exprimé donc, en ces termes qui sont très clairs, que vous venez donc de dire. Alors, pour le président, il faut donner une chance ou bien il faut voter massivement pour le parti au pouvoir qui doit avoir une majorité écrasante à l'Assemblée pour que les députés puissent encore manipuler la Constitution pour qu'ils puissent se présenter pour un troisième mandat.
Alors lui, il parle de continuer hein, la réalisation de nos projets. C'est vrai que les appels à un troisième mandat se multiplient depuis plusieurs années, vous l'avez dit. Quelle est la réalité de la volonté d'un troisième mandat dans la population? Est-ce une demande des Mauritaniens? Comme l'a dit hein, d'ailleurs le porte-parole du gouvernement en juillet dernier, hein, il a dit 90% hein, du peuple mauritanien est attaché à la personne du président de la République.
Non, ça c'est les propos de ceux qui sont au pouvoir qui disent ce qu'ils veulent. C'est des gens qui sont tout simplement des turiféraires du régime, qui chantent pour les louanges de ceux qui sont au pouvoir parce qu'eux-mêmes trouvent leur compte dans la continuité de ce système. Les Mauritaniens ne sont pas pour un troisième mandat. Nous rappelons que ce sont ces mêmes Mauritaniens qui s'étaient déplacés en 2006 lors du référendum du 25 juin pour s'exprimer d'une manière très claire en disant que c'est fini, ça suffit les coups d'État, mais aussi ça suffit que certains s'accrochent au pouvoir jusqu'à la fin de leur vie. Et lors de ce référendum du 25 juin 2006, les Mauritaniens, d'une manière très claire, ont fixé le nombre de mandats à 2. Donc, 2 mandats de 5 ans. Donc, c'est clair et il est tout à fait absurde de dire que les Mauritaniens sont à 90% pour que le président reste au pouvoir. Mais pourquoi ces Mauritaniens vont-ils souhaiter qu'ils restent au pouvoir? Ces Mauritaniens qui sont opprimés, ces Mauritaniens qui sont privés de leurs droits les plus élémentaires, qui n'arrivent pas à s'enrôler, qui sont en train d'être spoliés au profit de riches hommes d'affaires étrangers des pays du Golfe, ces Mauritaniens qui n'arrivent même plus à se nourrir, ces Mauritaniens qui sont victimes de violations des droits humains, alors pourquoi ces Mauritaniens écrasés par la pauvreté vont-ils accepter que ce monsieur reste au pouvoir avec un troisième mandat. Ça m'étonnerait.
Une dernière question avant de se tourner vers le standard. Je rappelle le numéro si vous souhaitez intervenir. 01 55 07 58 00. On entend effectivement tous ces appels à un troisième mandat. Et pourtant, il y a quelques mois, Mohamed Ould Abdelaziz, le président, a juré, a promis qu'il ne changerait pas la Constitution et qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Est-ce que vous le pensez capable de se dédire ?
Il ne sera pas le premier. Malheureusement, nos présidents africains sont habitués. Ils peuvent être noirs aujourd'hui et demain être blancs sans aucune forme de vergogne. Nous avons vu l'exemple de Mahamadou Tania au Niger et on a vu comment ça s'est terminé. Et aujourd'hui, c'est autour d'Ould Abdelaziz qui avait pourtant promis de respecter la Constitution. Mais encore, il avait juré, mais il semble oublier tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il s'accroche pour des intérêts tout à fait clair et précis. Et je pense que tout ceci ne sera possible que quand il bénéficiera du soutien de certaines puissances. Si le président Ould Abdelaziz a le courage aujourd'hui de vouloir rester au pouvoir, c'est parce que quelque part, il bénéficie du soutien de la France. Au nom de quoi ? Nous le dirons.
On reviendra effectivement sur le silence de la France, mais aussi de la communauté internationale en général, notamment sur les atteintes aux droits de l'homme en Mauritanie. On se tourne tout de suite vers le standard. On va écouter Léonka qui nous écoute, qui nous appelle depuis le Cameroun. Léonka, bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, Léonka. Alors, j'espère que la ligne va être bonne. On vous écoute. Vous vous dites le président ne peut pas briguer un troisième mandat. C'est bien ça?
Effectivement, comme j'avais énuméré dans la page Facebook, je crois que M. Ould Abdelaziz ne pouvait pas briguer un troisième mandat.
Pourquoi?
Effectivement, c'est un cas qu'on écoute souvent. Quand la Constitution est brisée, déjà mandatée, certains présidents de la République disent que la Constitution ou bien brisée par violence, c'est ce qui ne peut pas se passer, n'est-ce pas, là-bas en Mauritanie.
C'est très clair, Léonka. On ne va pas vous garder longtemps, parce que la loi, la ligne n'est pas terrible. Merci, Léonka, de votre inscription. En effet, Léonka nous a envoyé un petit message sur Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs. Il nous dit « La constitution mauritanienne interdit de briguer le troisième mandat. Et pourquoi en transgresser ? Ça prouve déjà la dictature de sa part. Il faut que l'Afrique dise non à la violation de la constitution républicaine. » Et Léonka nous envoie ce message depuis la frontière du Tchad et du Cameroun. Bonne journée dans ce coin de l'Afrique, mon cher Léonka. On enchaîne avec Diomo Debeng. Diomo Debeng, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour Diomo Debeng, on vous entend, il y a un peu de bruit autour de vous. Si vous avez une petite main libre, vous pouvez l'enlever.
Dans le transport, en fait.
Voilà.
Vous m'entendez ?
On vous entend, on vous écoute.
Oui, je suis super content qu'on parle aujourd'hui de la Mauritanie. Parce que c'est un pays, franchement, qui a d'énormes problèmes raciaux et tout ça. Mais aujourd'hui, nous parlerons bien sûr du troisième mandat de son président. Moi, je dirais, à mon humble avis, que le troisième mandat du président mauritanien ne servira à rien aux Mauritaniens, puisqu'en 10 ans, si tu n'as plus rien faire, ça ne sert à rien encore de faire un troisième mandat. Mais ce que je dirais, c'est que la Mauritanie a plus de problèmes qu'un problème électoral. Vous savez, il y a deux races qui vivent en Mauritanie, il y a des Noirs et des Blancs, comme on le dit. Mais les Noirs sont très opprimés. Et à ce sens-là, le président... Allô, vous m'entendez toujours ou pas, madame Stéphanie?
Tout à fait, je vous entends.
Voilà, donc je disais en ce moment-là que ce problème-là doit être réglé avant d'entamer tout processus électoral. Le président n'a pas pu le faire. Je pense qu'il serait mieux pour lui de laisser la place à quelqu'un d'autre. Et je dis bien, quand je dis quelqu'un d'autre, je parle de la nouvelle génération, comme l'a fait aujourd'hui le président Alassane Ouattara, qui prétend donner le pouvoir à une nouvelle génération. Je crois qu'en Mauritanie, ça devrait se faire. Et ça doit être lancé pour tout le monde. Aujourd'hui, Dieu merci, avec vos émissions et tout ça, nous avons vu aussi cette propagande-là se répercuter aussi sur la RDC. Sur la RDC, où aujourd'hui, le président Kabila n'est plus candidat. Moi, je pense que tous les pays doivent le faire, parce que je dirais ceci, que les mandats, le nombre de mandats n'a rien à voir. Le nombre de mandats, si vous voulez, n'est pas synonyme de bienfaits pour un pays. Aujourd'hui, on nous dit que la population mauritanienne, à 90%, réclame l'ancien le président actuel. Moi, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Ils ne donnent pas à manger à tout le monde. il ne donne pas à manger à tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui aime le président. Mais bon, vous savez, en période électorale ou quand on veut briguer un mandat, ah ben donc, chacun se tire le morceau d'épargne à sa faveur. Moi, je dirais que le président mauritanien doit arrêter de mentir à son peuple et plutôt de se consacrer à tout ça et à ses problèmes raciaux plutôt. Je vous remercie.
Merci, Diomo Dubaï. On va parler justement de ces problèmes raciaux que vous évoquez et de l'esclavage qui persiste dans ce pays. Abdou Biranouane, restez à l'écoute. On écoute un dernier auditeur qui nous appelle depuis Conakry, en Guinée. Tierno, bonjour.
Bonjour, madame Stéphanie, et bonjour à l'ensemble des auditeurs.
Bonjour à vous, Tierno. Bienvenue dans le JDA. Vous estimez qu'il y a volonté de la part du président de s'externiser au pouvoir?
Oui, tout à fait. Moi, je pense que M. Abdelaziz n'est pas du tout prêt à céder le pouvoir. Il cherche des stratégies comment s'éterniser au pouvoir. Parce que lui, depuis qu'il a commencé le deuxième mandat, même en le voyant qu'il n'est pas tout récemment lors de la sommet de l'IA à Nouakchott, il y a eu certains observateurs aussi qui l'ont signalé. Il y a beaucoup qui pensent que c'est pour le troisième ou bien quatrième mandat qu'il... Non, il compte s'éterniser au pouvoir comme il est en train de faire le président d'Algérie, vous voyez, Bouteflika. Des personnalités qui ne veulent pas du tout céder le pouvoir. Vous savez, le pays francophone du Maghreb gouverne autrement, chaque fois en Mauritanie, si ce n'est pas Ould Abed, l'activiste des droits de l'homme, ou bien les journalistes, l'exemple des filles et autres, les activistes ont de sérieux problèmes. Ont des problèmes qu'on ne peut pas compter, chaque fois ils sont interpellés, arrêtés, jugés et condamnés. Moment où tout le monde bouge, la Mauritanie, l'actualité au jour d'aujourd'hui, dans toutes les provinces, on nous parle du racisme. C'est quelque chose qui est très dangereux. Usant de règne, elle n'a pas pu mettre fin à cela. Et puis l'opposition, et là aussi, c'est une opposition qui est vraiment minoritaire, qui n'est pas du tout capable de contrer le pouvoir. C'est quelque chose qui est très, très, très dangereux dans un pays qui vit sous une dictature. Ce n'est pas longévité du pouvoir qui est la dictature, mais c'est la, comment dirais-je, il téléguide les institutions judiciaires. C'est ce que est très dangereux, à part la séparation du pouvoir en Mauritanie. C'est ce qui inquiète tous les observateurs et les activistes des droits humains. Les
négros,
comme on les appelle en Mauritanie, les noirs sont vraiment victimes du racisme. Il faut qu'on se dise la vérité, que ce soit leurs élites ou ceux qui se trouvent dans les campagnes. Même pendant le recensement électoral, ils ne sont pas du tout recensés dans le règle de l'art. Madame Kadiata Diallo dénonçait tout ça il y a des années. Et beaucoup de députés au sein de l'Assemblée, j'ai vu même une vidéo lorsque le député voulait s'exprimer en langue locale, en poulard, pour parler aux concitoyens mauritaniens. Le président de l'Assemblée l'a interpellé en soi-disant de s'exprimer soit en arabe ou en français. Il a dit non, monsieur le président, je ne vous parle pas à vos élites, je parle plutôt au bas peuple.
Vous soulignez un point intéressant, mon cher Tierno, et c'est ce qu'on évoque aussi quand on parle de problèmes raciaux. C'est aussi peut-être une forme d'arabisation de la Mauritanie. On va en parler avec notre invité. Vous avez entendu, Abdou Biranouane, les auditeurs, ils parlaient beaucoup de l'opposition. Une des figures de l'opposition, c'est Biram Dahabed. Il a été arrêté le 7 août dernier avec des journalistes et des militants anti-esclavagistes. Ils sont accusés d'atteinte à l'intégrité d'autrui et menace d'usage de la violence. Biram Dahabed était candidat à la députation. Son mouvement, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, avait scellé une alliance avec un parti nationaliste arabe dans le but d'élargir son électorat. Est-ce qu'il y a une volonté de museler l'opposition en Mauritanie?
Oui, cette volonté de museler l'opposition en Mauritanie a toujours existé. Et cette volonté n'a pas commencé qu'avec Ould Abdelaziz. Malheureusement, c'est une pratique. Il faut rappeler que c'est un système qui est dans une certaine forme de continuité. Aujourd'hui, ce qui se passe est dramatique. Les militants des droits humains sont arrêtés alors qu'ils n'ont commis aucun crime. Je rappelle le cas de ces veuves, orphelins et rescapés militaires qui devaient se rendre à Genève pour un sommet auquel ils ont été invités. Alors, leurs passeports ont été tout simplement confisqués. Aujourd'hui, ce qui se passe est extrêmement grave. Non seulement les gens ne peuvent pas s'exprimer en Mauritanie, mais on fait tout aussi pour les empêcher d'avoir l'opportunité de s'exprimer à l'étranger. Alors, je reviens sur ces arrestations de certains journalistes, dont Babacar Baye Ndiaye, l'arrestation également de Biram. Quels que soient les motifs, il y a une certaine forme d'acharnement. Mmh. L'État veut instaurer une certaine forme de dictature pure, donc d'un régime stalinien. Alors, il ne faut même plus s'exprimer. Tout celui qui s'exprime encourt des risques. Alors, c'est ça la situation en Mauritanie.
Est-ce qu'on peut dire que sous la présidence, puisque les auditeurs évoquaient beaucoup l'esclavage, est-ce qu'on peut dire que sous la présidence de Mohamed Ould Abdelaziz, ce problème, non pas s'est aggravé, mais en tout cas a été peu combattu?
Ce problème n'a jamais été combattu sérieusement. Parce que
bien qu'il soit interdit en Mauritanie, sur la loi.
Sur le plan théorique. Mais les autorités n'ont jamais eu la volonté de combattre l'esclavage. Alors, si ceux qui sont au pouvoir étaient sincères, ils auraient pu confier le règlement de ce problème à ceux qui sont les mieux indiqués pour régler ce problème. Mais on ne peut pas vouloir régler le problème de l'esclavage et confier cette question également aux esclavagistes. Mmh. C'est contradictoire. De la même manière qu'on ne pouvait pas vouloir régler la question du passif humanitaire et confier également cette question épineuse à ceux qui sont impliqués dans ces massacres. Mmh. C'est tout à fait absurde. De cette façon, on va attendre encore des années et rien ne sera résolu.
On va revenir rapidement, parce qu'il y a Boubacari qui pose cette question en disant: l'invité a-t-il des preuves quand il affirme que la France soutient le président Ould Abdelaziz? Le silence des gouvernements africains et de l'Union africaine sur les agissements répressifs du régime mauritanien est coupable, écrit Hamidou Anne, qui est un diplomate notamment sénégalais. Est-ce que le régime autoritaire mauritanien bénéficie d'un blanc-seing de la communauté internationale et pourquoi?
Je vais commencer d'abord par dénoncer le silence coupable, cynique et honteux des États africains. Des États africains qui observent et qui n'agissent pas face à cette Mauritanie qui instaure de plus en plus un système d'apartheid qui opprime des Noirs. Aucun État ne s'exprime par rapport à ça. Et pourtant, quand il a fallu débarquer ou déloger Yahya Jammé, le Sénégal a sorti ses muscles. Pourquoi le Sénégal n'a jamais eu le courage de parler de ce qui se passe en Mauritanie? Et surtout, que quand il y a des conséquences, le Sénégal est le premier État à les subir. Nous dénonçons également la complicité de cette communauté internationale. La France a toujours soutenu les dictatures en Mauritanie. Nous n'avons pas oublié que c'est grâce à la France que des tortionnaires, des personnes reconnus comme étant des criminels qui étaient sur le sol français, qui étaient menacés par la justice internationale, ces gens, grâce à la France, ils ont pu s'échapper et rentrer en toute tranquillité en Mauritanie. Aujourd'hui également, la Mauritanie se sert de cette question du terrorisme, entre guillemets, en accusant certaines populations d'une manière tout à fait injuste. On tente de montrer tous les peuples du Mali comme des terroristes, ce qui est tout à fait faux. Et la France, le reste des puissances occidentales, aveuglées par cette question du terrorisme, apportent tout leur soutien à des dictateurs dangereux comme Ould Abdelaziz, comme Idriss Déby, à travers un G5 Sahel qui n'est destiné qu'à renforcer des dictatures et à écraser des populations vulnérables. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous avons toujours accusé la France d'être derrière ces dictateurs mauritaniens, de Taïa à Ould Abdelaziz.
On peut s'interroger aussi sur la visite rapide du président nouvellement élu Ibrahim Boubacar Keïta à Nouakchott au lendemain de sa réélection. Il nous reste quelques minutes. Il y a de nombreux auditeurs qui veulent vous poser des questions, Abdou Biranouane. On va d'abord se rendre du côté de la République démocratique du Congo. C'est Venance qui nous a envoyé un message sur Facebook. Venance Kamono, bonjour, VECAM.
Oui, bonjour, madame Lignan.
Bienvenue sur l'antenne d'Africa numéro 1. Vous vouliez faire une réflexion plus globale sur les systèmes politiques en Afrique et ces présidents qui perdurent au pouvoir.
La fille et l'opportunité que vous m'accordez pour m'exprimer à travers cette chaîne. Bon. En fait, je vous appelle à partir de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Mm-hmm. Nous avons beaucoup de douleurs, nous avons un mauvais constat, dans le sens que nos pays africains n'ont pas du tout le droit de respecter ce qui est voté, ce qui est élu, ce qui a été retenu par consensus de tous, du fait qu'après quelques jours, on peut adopter telle loi. Et après l'adoption de la loi, nous allons remarquer que cette même loi qui a été adoptée par tout le monde et par les garants même de la loi ne parviennent pas du tout à respecter la loi. Bon, en fait, c'est quelque chose d'étonnant.
Il y a un problème autour de la parole donnée, vous nous dites, Venance. Hein. On ne va pas vous garder très longtemps parce que la ligne grésille un peu, mais on vous salue hein, du côté de Lubumbashi, mon cher Venance. D'ailleurs, on salue tous les habitants de Lubumbashi. Merci, Venance. On va écouter Demba. Demba, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Stéphanie, et bonjour à votre auditeur, Abdul Biramon. Moi, j'ai juste une question à lui poser. On se connaît très bien. C'est lui poser la question. Avant d'aller parler à la radio, c'est bien beau, c'est bien simple, mais avant d'aller parler la situation, les problèmes du Mauritanien en France, représentant du Mauritanien à parler à la radio, je pense vaut mieux d'abord d'aller prendre des contacts avec avec les Mauritaniens vivant ici en France. Depuis 2015, il est venu ici en France, Abdul Grandman, on se connaît très bien. Mmh. Il n'est jamais venu chercher des Mauritaniens pour prendre des contacts, venir dans les manifestations, dans les conférences de presse. Pourquoi aller à la radio?
C'est nous qui l'avons invité, mon cher Demba, si je peux justifier sa présence. Vous voudrez que les Mauritaniens de France se rassemblent davantage, c'est ce que vous dites finalement.
Non, parle de Abdul Biran. J'ai dit avant d'aller parler à la radio, pourquoi il n'est pas venu chercher les Mauritaniens ici en France?
Alors Abdul Biran Wan, qu'est-ce que vous pouvez répondre à monsieur Demba?
Je considère que c'est tout à fait personnel, que c'est une intervention commandité avec d'autres motivations que j'ignore. Nous sommes des Mauritaniens ici. La preuve que nous avons fondé une section qui est reconnue par les autorités françaises. Bon, cette section n'a pas été fondée par une seule personne qui s'appelle Abdul Biran Wan. Merci.
Mais vous essayez de créer des synergies entre les Mauritaniens de France ici. Vous faites partie du collectif Touche pas à ma nationalité. Hein. Vous étiez plutôt engagé au moment du recensement il y a quelques années. Ça continue?
Oui, non seulement il y a cette synergie, mais nous avons également établi des contacts avec d'autres mouvements qui sont issus de pays différents, que ce soit des Guinéens, que ce soit des Maliens. Pour nous, ce combat doit dépasser le cadre national mauritanien. Si les Mauritaniens à eux seuls étaient en mesure de régler ce problème, il serait réglé depuis. Mais nous avons besoin du soutien de nos autres frères panafricains. C'est pour cette raison que nous nous sommes engagés sur cette ligne. Et ça marche bien. Non seulement que ça marche bien en France, ça marche également bien en Belgique, mais aussi du côté des États-Unis. Et le temps va nous donner raison et nous pourrons démontrer ce qui se passe réellement.
C'est plus facile d'être dans l'opposition en France qu'en Mauritanie, j'imagine?
J'ai fait mes preuves en Mauritanie. J'ai dirigé un mouvement, touche pas à ma nationalité. Personne n'a vu Abdul Biran Wan reculer. J'étais toujours au devant des troupes. J'étais toujours le premier à soulever donc les premiers blessés. J'étais toujours le premier à être arrêté. Et pas comme certains. Je n'ai rien à prouver en tant qu'activiste mauritanien. J'ai été arrêté à plusieurs reprises et j'ai pris des risques considérables. Et j'ai perdu l'être qui m'était le plus cher lors d'une de mes arrestations. C'est mon cher papa. Donc je n'ai plus rien à prouver. Merci.
Merci Abdul Biran Wan. On va écouter un dernier auditeur, Ousmane. Ousmane, bonjour.
Bonjour Madame Stéphanie, bonjour à votre invité.
Bonjour Ousmane.
Moi, je voulais poser deux questions. Bon, la première, que devient l'opposition mauritanienne, le parti FLAM, Front de la Libération des Africains de Mauritanie. Puis la deuxième question, mais les Noirs en Mauritanie, j'ai l'impression qu'ils ne s'entendent pas entre eux. Comment peuvent-ils lutter contre le régime du président, des dominateurs, hein? Parce que moi, je connais beaucoup de Mauritaniens, mais je vois que entre eux, ils ne s'entendent pas, ils critiquent. Il y a même un jour qui disait le FLAM, c'est une organisation dirigée par les Halpulars, c'est-à-dire les Peuls, quoi.
Ceux qui parlent le Peul.
Oui, oui, hein. Mais il faut que les Noirs se rassemblent pour devenir forts. Ils sont majoritaires, les Noirs. Mmh.
Justement,
des Noirs, les Haratins, les Peuls, les Wolofs.
Ousmane, je vous interromps parce qu'il reste moins de 2 minutes et il faut que je laisse au moins 50 secondes à notre invité Abubirawan pour répondre. Il y a un véritable problème identitaire en Mauritanie.
Oui, ce problème identitaire, il existe. Et il y a une volonté manifeste d'imposer l'arabe aux populations qui ne le sont pas. Donc, il y a d'autres populations, c'est des Wolofs, c'est des Soninkés, c'est des Peuls, mais le système veut assimiler toute la population négro-africaine pour en faire des Arabes. Je reviens un peu sur cette question de...
Tout à l'heure, un auditeur parlait de la Mauritanie comme pays du Maghreb. La Mauritanie n'est pas, géographiquement, n'appartient pas au Maghreb.
Le Maghreb n'est pas un continent, mais c'est pour des raisons tout simplement de pur racisme qu'on s'identifie à ce Maghreb. Et je reviens un peu sur cette question de l'unité. Nous avons été les premiers en 2012 à avoir demandé au parti et mouvement négro-mauritanien de constituer un vaste pôle. Et nous avons été taxés d'extrémistes. Effectivement, il y a des organisations qui ne pensent qu'elles ne peuvent pas exister tant que l'autre aussi existe. Elles ne peuvent exister quand l'autre disparaît. C'est ça le problème des Noirs de Mauritanie. Nous espérons dépasser ces soucis.
On aura l'occasion, merci, bien sûr, d'en reparler. Merci Abdoubirawan d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes un des fondateurs du collectif Ne touche pas à ma nationalité et que vous venez de publier ce livre, Les Noirs de Mauritanie, entre résistance et résignation. C'est aux éditions Continentales. Merci à tous de votre participation. Je m'excuse auprès de William qui s'était inscrit et qu'on n'a pas pu prendre. Je l'invite à rester en ligne pour qu'il s'inscrive pour la libre antenne. Sinon, vous pouvez continuer le débat, bien sûr, sur notre page facebook.com/journaldesauditeurs ou sur Twitter, @jauditeur. Quelques messages aussi que nous pourrons lire dans les prochains jours. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. À demain.